Chapitre 7. Pendant les trois premiers jours de sa visite à Lens-à-la-Joie, Clémence passa de la maison bleue de Madeleine à la maison blanche de Simone, sans préciser ce fait à ses sœurs. Les jumelles se doutaient bien que leur cadette les voyait toutes les deux, mais aucune n'avait l'intention d'aborder le sujet. Le matin, Clémence se levait après le départ de son oncle Jean-Julien pour son studio de photographie, profitant de la vue exceptionnelle que la maison de l'homme offrait sur la mer et le rocher percé. Elle s'installait confortablement sur le balcon pour siroter son thé et manger un bout de pain. La jeune femme fumait lentement une cigarette en savourant la tranquillité du petit village côtier. « Je dois avouer que ça me manque », songea-t-elle le mercredi. « Cette vue est irremplaçable. » Les nuances de gris du fleuve avaient quelque chose de mystérieux, et elle huma l'air en se demandant si elle aimerait un jour revenir vivre dans son village. Est-ce que Sylvestre pourrait être bien accueilli à Lens-à-la-Joie? Arriverait-il à s'y sentir chez lui éventuellement? Se prenant à rêver, elle imagina même son amoureux unissant ses forces à celles de son oncle pour faire du studio de photographie un commerce encore plus rentable. Il faudrait que je tâte le terrain auprès de mon oncle. Je me demande si les villageois finiraient par l'accepter ou s'il resterait toujours l'étranger, susurra-t-elle en se levant à regret. Secouant la tête pour chasser ses pensées sombres, Clémence poursuivit à voix haute en jetant un regard sur sa jaquette rose pâle. « Bon, il est temps d'aller t'habiller, ma fille. » Elle avait promis d'aller en bateau avec Philomène. Depuis la mort d'Éloi, sa sœur n'avait pas remis les pieds dans une barque. Simone, qui avait tant aimé les promenades en mer, regardait à présent cette étendue d'un autre œil. La femme préférait admirer le fleuve, les pieds bien ancrés dans la plage de Lens. Plus jeune, Madeleine et elle pouvaient passer des journées entières à empiler des galets pour ériger des constructions chambranlantes, pendant que leur mère, Carmel, salait et empilait les morues. Entre deux coups de main autour des vignaux familiaux, les fillettes s'amusaient à faire vivre leurs poupées usées dans leur amas de roches, ou à fabriquer des bonshommes avec des bouts de bois et des chiffons que Carmel leur donnait. Quand Clémence avait lancé l'idée d'une sortie en mer la veille en revenant de la grave, le visage de sa sœur s'était donc aussitôt fermé. « Je passe mon tour, Clémence. Je vais plus sur l'eau depuis un an. » La plus jeune avait hoché la tête avec compréhension. Elle avait poursuivi sa marche quelques pas derrière sa sœur et souri à sa nièce, qui s'était approchée pour glisser sa main dans la sienne. « Moi, j'aimerais vraiment ça aller en bateau », avait chuchoté Philomène en jetant un regard de billet à sa mère, craignant sans doute des remontrances. Pourtant, Simone n'avait rien ajouté. Le petit Gustave, qui avait adopté la famille La Violette depuis le début de l'été, avait joint sa voix à celle de son amie. « C'est certain qu'on dirait pas non pour t'accompagner, ma tante Clémence », avait-il ajouté d'un ton posé. Cette dernière avait retenu un fou rire devant le sérieux du gamin. D'abord étonnée de constater la présence quasi constante de Gustave Veillette auprès de la famille de sa sœur, elle avait questionné celle-ci avec curiosité. « Comment ça se fait que le jumeau à Géraldine est toujours chez vous? » « Oh, mettons que Géraldine et Homer sont pas dans une bonne période. » « Tu connais son mari, il est malade », avait expliqué Simone. « Et puis honnêtement, ça nous dérange pas. Il n'est pas aussi tannant que le prétend mon ami et il est capable de nous donner un bon coup de main sur la grave. Il est petit mais vaillant, pas comme son père », avait grogné la jumelle en grimaçant. Simone aurait pu ajouter que cet enfant enjoué mettait de la vie dans leur maison, comme un baume sur leur plaie encore bien vive. Gustave permettait aux membres de la famille d'oublier momentanément le drame qu'ils avaient vécu, avec ses commentaires désopilants, ses questionnements existentiels et son franc-parler. Il arrivait même à la mère de Philomène d'avoir une bonne discussion avec Gustave et de presque oublier que le gamin venait juste d'avoir 9 ans. Clémence connaissait peu Homer, qui avait quitté l'école du village avant même qu'elle ne commence sa première année. Elle avait insisté en dévisageant sa sœur. « Mais ça dérange pas Géraldine de le voir toujours ici? » Simone avait hésité avant de partager ses pensées. « J'ai pas l'impression. On dirait qu'il trouve toujours le tour de faire damner sa mère. En plus, ça fait de la compagnie à Philo. Elle aussi doit apprendre à vivre sans son frère. Dans le fond, quand Gustave est ici, ça fait du bien à tout le monde. » Simone s'était interrompue, une boule au fond de la gorge, et sa cadette avait senti ses yeux s'embuer sous l'émotion. Soupirant profondément pour éviter que la peine la submerge, la jumelle avait fait un léger sourire à Clémence. « Il est bien fin, ce petit gars-là, même s'il mange pour deux. » Géraldine a beau racler les fonds de tiroir, quand ton mari travaille une journée par-ci par-là, il sort plus d'argent qu'il en rentre. Au début, j'étais mal à l'aise de le nourrir aussi souvent, mais je te dirais que ça fait l'affaire de Géraldine qui a une panse de moins à rassasier. Puis Tom l'aime bien, avait ajouté Simone en conclusion. La femme avait bien remarqué que lorsque son mari voyait l'enfant sur la grave à son retour de la pêche, son visage fermé s'éclairait un peu. « Je comprends », avait répondu Clémence en suivant des yeux Gustave, qui courait après une mouette en criant à tue-tête. La jeune femme savait que, pour la plupart des familles du village, la vie était dure. Au moins, l'été, les pêcheurs et les agriculteurs pouvaient regarnir leurs caveaux et leurs glacières. Mais si Omer n'y arrivait pas, elle se demandait bien comment Géraldine pouvait faire manger tous ses enfants. Simone avait inspiré profondément avant de confier la tristesse envahissant ses traits. Et pour tout avouer, il me fait penser à Éloi parfois. Il lui ressemble pas physiquement, mais sa bonne humeur est aussi contagieuse que la sienne. Clémence n'avait rien dit, se contentant de serrer bien fort la main de sa sœur. Alors devant les grands yeux bruns de Gustave qui la suppliait de les amener en bateau, la jeune femme avait demandé à Simone si elle était d'accord avec l'idée. Celle-ci avait longtemps hésité, tout en sachant qu'elle ne pouvait empêcher les enfants de vivre comme avant. Elle avait donc acquiescé à la proposition, non sans ressentir un serrement au niveau de la poitrine. Elle avait déjà fait confiance à l'une de ses sœurs, avec les conséquences que tout le monde connaissait. Tom lui en voudrait peut-être lorsqu'il apprendrait ce projet de sortie en mer. Simone avait donc fait promettre à sa cadette d'être extrêmement prudente. Clémence avait beau avoir navigué toute sa vie, elle ressentait une légère inquiétude à l'idée d'un éventuel incident. Mais en levant les yeux vers le ciel sans nuages, la femme inspira profondément et souffla avec tendresse. « Arrange-toi pour que tout aille bien, petit ange. Puis tant qu'à faire, ce serait bien que tu veilles sur ta mère et ton père. Ton absence est difficile à combler, mon cœur. » Clémence se dépêcha ensuite de faire sa toilette et de passer un coup de brosse dans ses cheveux frisottés. Elle glissa ensuite ses longues jambes dans un pantalon corsaire. « Tant pis pour Jacqueline, c'est pas mal plus pratique pour Amé. » En repassant devant la chambre de Jean-Julien, elle remarqua un cahier sur le sol et pénétra dans la pièce pour le ramasser. En le soulevant, Clémence ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'intérieur, et elle y lut quelques lignes avant de le refermer, le rouge aux joues. « J'ai souvent repensé à toi dans les derniers mois. Le souvenir de ton regard, de ta peau douce, Marguerite, me rappelle nos moments tendres. Je me demande si un jour je te reverrai. » Pinçant les lèvres, Clémence déposa le cahier sur la table près du lit en s'admonestant sévèrement. « J'ai pas d'allure. Me voilà à fouiller dans les affaires de mon oncle. » La mine piteuse, Clémence glissa ses pieds dans ses vieux souliers de toile bleue en se promettant de ne plus jamais agir ainsi. La jeune femme espérait ne pas croiser son frère en se rendant chez Simone. Depuis leur discussion du début de la semaine, Clémence appréhendait une seconde rencontre avec lui. Il avait beau être curé, son ingérence dans sa vie et son intolérance face à l'homme qu'elle aimait lui enlevaient toute envie d'entretenir une relation avec lui. Assis dans les marches, Philomène et Gustave bondirent sur le sol en apercevant la jeune femme qui se dirigeait vers eux. « Enfin !» crièrent les enfants en courant rejoindre Clémence qui souriait. Les amis avaient quelques mois de différence seulement, mais Gustave dépassait la fillette blonde d'une bonne tête. C'était un garçon maigrichon, au visage hâlé et aux yeux bruns presque noirs. Il enfonça sa casquette pas très nette sur ses mèches trop longues et pointa la mer. « On y va, ma tante? » Encore une fois, Clémence pouffa en l'entendant. La première fois qu'il l'avait appelée ainsi, elle s'était penchée pour lui dire « Tu sais que je suis pas ta tante, hein, mon bonhomme? »« Ben oui, je suis pas niaiseux. » Ah! Comme il avait continué à la nommer ainsi sans se préoccuper des réels liens filiaux, Clémence avait abandonné. Simone lui avait fait comprendre qu'il ne servait à rien de s'obstiner avec Gustave quand il avait une idée en tête, d'où ses prises de bec constantes avec sa mère, Géraldine. La femme leva un doigt dans les airs pour demander aux enfants d'attendre un moment, et elle se dirigea vers la porte de la Maison Blanche. Elle cogna deux petits coups avant d'ouvrir. « Allô, Simone? » « Oui? » « C'est toujours correct si j'amène Gustave et Philo en chaloupe? »
Horace, assis à la table de la cuisine, délaissa la lecture du journal pour attendre la réponse. Il ne vit pas les émotions contradictoires affluer sur les traits de sa bru, qui se tenait quelques pas devant lui. Simone regrettait d'avoir accordé la permission la veille au soir. Si Tom apprenait que sa fille était allée en bateau, il serait furieux, elle en était certaine. Se tournant vers son beau-père, elle chuchota d'un ton rempli de détresse. « Horace, je devrais les laisser aller. »
L'homme inspira en posant les mains de chaque côté du journal, et il se leva lentement. Malgré sa carrure imposante, Horace avait l'impression que les années se succédaient à une vitesse folle depuis qu'il avait cessé d'aller en mer. Le travail au vigneau était difficile aussi, mais les pauses demeuraient plus accessibles. Quand son corps s'ankylosait, Horace montait se reposer une heure ou deux en s'appuyant sur les autres travailleurs qui prenaient alors la relève. À Lens-en-la-Joie, l'entraide faisait partie de la réalité quotidienne. C'est donc d'un pas d'abord incertain que le sexagénaire s'approcha des sœurs. Il jeta un coup d'œil vers Simone et hocha sa tête chauve avant de répondre.
« Oui, ma fille. »«
Mais si... » Clémence avança de quelques pas pour prendre sa sœur par les épaules. Elle plongea ses yeux clairs dans ceux plus foncés de la jumelle et affirma « Il n'arrivera rien à Philo ni à Gustave. Je t'en fais la promesse. »
Je sais pas si je devrais. J'ai tellement peur, j'ai pas demandé la permission à Géraldine en plus.
Horace la regarda en haussant les sourcils. Ils savaient tous que la mère du petit ne s'opposerait pas à une telle sortie. La pauvre Simone avait les yeux remplis de larmes et son regard oscillait entre les enfants sautillants qu'elle voyait par la fenêtre à côté de la porte et le visage sérieux de Clémence. Et si le bateau chavirait? Si Philomène glissait, si Clémence avait un malaise et que l'embarcation venait à dériver vers le large. Constatant la détresse de son aîné, Clémence se fit une nouvelle fois rassurante. « Je m'éloignerai pas du quai, Simone. Je te promets aussi de rester visible de la plage en tout temps. Tu sais bien que je vais être plus prudente que je l'ai jamais été. »
Horace retira ses lunettes de lecture et frotta ses sourcils poivre et sel, qui faisaient rire sa petite fille à cause de leur longueur impressionnante. Il ajouta d'un ton ferme «
Et puis, Simone, tu veux tout de même pas que Philomène craigne la mer? Sa vie va se dérouler ici, en Gaspésie. Il faudrait aussi qu'elle recommence à se baigner avec ses amis. Non, ça non, je suis pas prête. Seulement quand son père ou moi, on est là. »
Clémence recula sous la puissance du ton et réalisa à quel point la mort d'Éloi avait changé la vie de sa famille. Depuis toujours, les enfants des villages côtiers sautaient dans la mer lorsque la chaleur de l'été arrivait. Comment Philomène réagissait-elle à ces nouvelles règles? La jeune femme eut envie de s'en informer, mais elle décida plutôt de questionner la principale intéressée lorsque le moment s'y prêterait. Les deux enfants à l'extérieur s'impatientaient et faisaient des signes de la main pour que Clémence les rejoigne. Simone croisa les bras en prenant un air toujours indécis. Elle fixa sa sœur et finalement, devant les sourires radieux de sa fille et de Gustave, elle abdiqua tout en précisant «
Mais si jamais Tom l'apprend, il m'en voudra, c'est certain. Laisse faire mon gars, je vais m'en occuper », assura Horace en frottant sa barbe naissante. « De toute manière, j'ai déjà abordé le sujet avec lui et il est moins fermé à l'idée que tu l'imagines. »
Satisfaite, Clémence enlaça sa sœur et sortit de la maison avant qu'elle ne change d'idée. Elle ne voulait pas avoir à gérer la déception des deux enfants advenant le cas.
« C'est la plus belle journée de ma vie !» s'écria Philomène en courant sur la plage de Galet pour aller rejoindre sa mère au vigneau.
Les autres villageois rigolèrent, tout en continuant leur ouvrage. Ils étaient heureux de constater que la femme de Tom recommençait à sourire. Car dans un rare élan d'affection, Simone s'agenouilla, les bras grands ouverts pour accueillir en riant sa fillette qui s'y glissa malgré le bas de sa robe grise tout trempée. Au bout de la plage, assise sur une chaise et occupée à écailler les morues, Madeleine regardait avidement la scène en savourant la joie qu'elle lisait sur les visages de sa jumelle et de sa nièce. Le soulagement l'envahit alors qu'elle constatait la réussite de cette sortie en mer. Quand Clémence était venue la voir en arrivant sur la plage, Madeleine avait réagi fortement à son projet de navigation.
Je pense pas que ce soit une bonne idée. Voyons, arrêtez ça. La mère s'en ira pas et Philomène va passer sa vie ici. Il faut recommencer à l'apprivoiser. En tout cas, c'est ce que j'ai dit à Simone et son beau-père pense la même chose. Madeleine avait fait la moue. Chaque fois qu'un enfant du village s'aventurait dans l'eau du fleuve, elle sentait son corps se raidir et la tension monter dans tout son être. Elle revoyait le corps inerte de son neveu lorsqu'il avait été sorti de la mer 13 mois auparavant. Si elle ne pleurait plus quotidiennement, il n'en demeurait pas moins que cette tragédie laisserait des traces pour toujours. La femme avait donc observé avec inquiétude sa nièce et sa sœur, accompagnées de Gustave lorsqu'ils s'étaient avancés sur le quai. La chaloupe de Tom et Simone s'était amarrée tout au bout et en riant, Clémence avait tiré la corde pour la rapprocher. Philomène s'était installée de manière très sage sur le banc du milieu, alors que le fils de Géraldine avait sauté à ses côtés. « Oh, que j'aime pas ça !» avait susurré Madeleine en tordant ses mains dans les poches de sa jupe longue. « Quoi ?» Émile Pelletier, appuyé contre la table de coupe, avait arrêté son mouvement pour questionner Madeleine. Depuis son retour au village, il avait presque oublié l'émoi ressenti lorsque son corps avait été en contact avec celui de la jolie femme l'année précédente. Déterminé à mettre de côté cette sensation dès son arrivée à Lens-à-la-Joie, le costaud avait été très satisfait en constatant la nouvelle grossesse de l'épouse de Freddy. Il était bien plus facile de ne voir que la mère derrière ce ventre proéminent. Enceinte de presque 6 mois, Madeleine avait le corps bien plus enrobé que lorsqu'elle portait Arthur. Ce dernier, un bébé facile qui dormait souvent dans le carrosse sur la plage, rappelait aussi à Émile le statut de la femme. Il s'était donc créé une bonne camaraderie entre les deux. Suivant le doigt de Madeleine, l'homme avait cherché à comprendre jusqu'à ce qu'elle susurre « Ma sœur Clémence amène ma nièce sur l'eau. » Oh! Hochant la tête, Émile avait préféré replonger dans sa tâche plutôt que d'élaborer sur le sujet. Il n'était jamais à l'aise face au malheur qui avait divisé la famille de Madeleine. Par contre, il ne se gênait pas pour observer la belle Clémence à la dérobée chaque fois qu'elle passait près de sa table de coupe ou des vignaux familiaux. Il aurait bien aimé tenter sa chance auprès de la cadette des Gérard, mais il avait appris avec dépit de la bouche de Freddy que cette dernière avait un prétendant sérieux à Rimouski. « Un homme d'ailleurs », avait marmonné sur un ton débité le mari de Madeleine. « D'ailleurs, ben, il est canadien-français, mais sa mère est noire. » « Oh !» Mais la couleur de peau de l'ami de cœur de Clémence dérangeait peu Émile, qui était surtout déçu de ne pas avoir essayé de la charmer lors de sa visite de l'année précédente. Le jeune homme avait beau avoir beaucoup à offrir à une femme, quand venait le temps de faire la cour à l'une d'elles, il perdait tous ses moyens. Même Mathias Gagné, l'idiot du village, semblait être plus outillé que lui pour parler aux villageoises célibataires. Pendant toute la sortie en mer du trio, des deux côtés de la grave, l'attention des jumelles était totalement fixée sur la chaloupe qui voguait dans la baie. Quand Madeleine réalisa que l'activité s'était bien déroulée, elle respira un bon coup. Même si la plage du village de Lens-à-la-Joie faisait un peu plus d'un quart de mille de long et que les installations des jumelles se situaient à chacune des extrémités de celle-ci, en cet instant précis, la femme eut l'impression de pouvoir lire le bonheur sur le visage de sa jumelle quand les enfants sautèrent sur le quai à la suite de Clémence. Prise d'un élan soudain, elle se leva lentement et déposa son couteau au fond de sa chaudière. « Surveillerais Arthur quelques minutes, Émile, s'il te plaît ?» demanda-t-elle d'un ton ferme. Le jeune homme acquiesça en souriant. Autour d'eux, des dizaines de vigneaux accueillaient des poissons qui séchaient. Des étals, des tables de couple et des chafauds. De la Robin à l'autre bout de la plage composait le paysage qu'il avait appris à aimer dès son arrivée au village l'année précédente. Quand l'été était ensoleillé et sec, comme c'était le cas en 1935, la bonne humeur se lisait sur tous les visages, malgré les longues heures de travail. Même si la tâche était souvent ingrate, ardue et éreintante, au moins personne ne se plaignait d'une saison pluvieuse, comme cela arrivait une fois tous les 4 ou 5 ans. « Rien de pire que l'été 1921 », disaient souvent Rosario et Palmyre. Selon les deux vieux, cet été-là resterait dans les annales de la côte comme étant celui ayant vu le village recevoir le plus d'eau depuis toujours. Bref, c'est donc avec bienveillance qu'Émile regarda la jeune femme descendre prudemment la butte pour marcher sur la plage de Galais. « Clémence ?
En entendant la voix de sa jumelle, Simone se détourna du récit survolté de Philomène et Gustave pour fixer durement Madeleine. « Hein? Oh, Maddy! » Mal à l'aise et ne sachant pas trop comment réagir face à la présence de ses deux sœurs si près l'une de l'autre, Clémence descendit à côté de Madeleine sur les galets. Elle fit un signe de la main pour la saluer et passa l'autre dans ses cheveux noués à la nuque. Philomène avait cessé de parler et fixait avec tristesse la tante qui avait été si importante dans sa vie avant la mort d'Éloi. « Tout a bien été? Je suis contente. » affirma Madeleine, qui ne savait pas trop ce qui lui avait pris de s'élancer à l'autre bout de la plage sous les regards curieux des autres villageois. Cette impulsivité, qui ne la caractérisait pas du tout, la mit tout à coup dans l'embarras, car elle constata qu'autour d'elle, plus personne ne travaillait. Enfin, les autres femmes continuaient à faire semblant d'éviscérer et de saler les morues, mais leur attention était tournée vers les jumelles Gérard. « On a fait une longue promenade en bateau, ma tante Maddy, t'as vu ?» s'exclama Philomène, qui avait décidé que si la jumelle de sa mère venait jusqu'à eux, peut-être que cela signifiait que la chicane était terminée. « J'ai vu mon cœur. » Chavirée par l'amour qu'elle éprouvait pour cet enfant, Madeleine avait presque oublié la situation. Mais Simone, d'un ton sec et sans réplique, le lui rappela bien vite. « Philomène, viens m'aider. » Se retournant pour ne plus avoir à partager un espace aussi rapproché avec sa jumelle, Simone jeta un regard d'avertissement à Clémence, qui déglutit avec gêne. Elle prit la main de la femme enceinte pour l'éloigner du poste de travail de la famille Laviolette. « Je suis désolée, Maddy, » souffla-t-elle un peu plus loin sur la plage. « Je suis certaine qu'un jour, elle va te pardonner. » Madeleine esquissa un sourire triste, et la lueur du soleil fit briller les larmes qui gonflaient ses paupières. Son visage avait repris une belle rondeur, comme lorsqu'elle était enceinte d'Arthur. Sa peau était légèrement hâlée, malgré le chapeau de paille qu'elle portait quotidiennement. « C'est pas de ta faute, ma Clémence. C'est de la mienne. » « Mais dis-moi alors, c'était amusant, cette promenade sur l'eau? » « Oui, très. Les enfants étaient plus qu'enthousiastes, disons. Il a fallu que je contienne un peu le gars de Géraldine, mais sinon, c'est une sortie à refaire. » Mal à l'aise de questionner sa cadette ainsi, Madeleine prit quand même sur elle et demanda « Pourquoi est-ce que le petit Gustave est toujours avec Simone? Géraldine est pas malade, toujours bien? Parce que ça fait un bon bout de temps que je l'ai pas vue sur la grave. Je sais qu'Omer a pas trouvé de barge pour cet été, mais quand même, d'habitude, elle venait donner un coup de main aux vigneaux de ses cousins. » Clémence secoua la tête en se demandant comment gérer cette situation qui perdurait entre ses sœurs. Si au moins Sylvestre était près d'elle, il l'aiderait à y voir clair avec son esprit posé. « Non, non, » répondit-elle en jetant un coup d'œil derrière elle. « Je pense que c'est pas facile pour Géraldine avec Omer qui est encore malade. Ça fait que Simone lui donne un coup de main. Philomène et Gustave s'entendent bien, alors c'est pas compliqué pour notre sœur de le garder un peu. « Ah, c'est gentil de sa part. » « Quant à moi, » se retint de dire Madeleine, « moins je vois Géraldine, mieux je me porte. » Dans les mois qui avaient suivi la noyade d'Éloi, la grande blonde ne s'était pas gênée pour la harceler et l'attaquer à chacune de leurs rencontres. Les deux femmes arrivèrent près d'Émile, qui fit un large sourire à Clémence. Il releva ses larges épaules et prit son courage à deux mains pour avoir l'air désinvolte. « De la belle visite au village, tu vas bien? » « Oui, et toi? Toujours très occupée au vigneau, à ce que je vois? » Eh oui, que veux-tu? Mais l'année prochaine, je vais essayer de me trouver un poste de second, ça c'est certain. » Clémence lança un regard soucieux vers Madeleine, mais cette dernière la rassura, en posant une main rugueuse sur son avant-bras. « C'est bien correct, inquiète-toi pas. Émile a le droit de faire ce qu'il veut. On est déjà chanceux de l'avoir avec nous pour cet été. » Clémence ne répondit pas et fixa un moment le corps imposant du jeune homme de 21 ans. Sans même s'en rendre compte, elle comparait mentalement sa silhouette costaude à celle de son amoureux resté à Rimouski. Non, réalisait-elle, son cœur était complètement envoûté par Sylvestre Ballant. Malheureusement pour Émile, qui songeait au même moment qu'il aimerait bien fréquenter la plus jeune des Gérard. Se dandinant d'un pied à l'autre, il attendit que Madeleine aille vérifier si son fils dormait toujours pour descendre près de Clémence. Je me demandais, commença-t-il en rougissant, « si t'aimerais ça m'accompagner au Bleuet avant de repartir à Rimouski. »
Embarrassée par cette demande qu'elle devinait ne pas être si anodine, la pauvre Clémence resta silencieuse quelques secondes, puis elle répondit platement « Les bleuets, j'aime pas tellement ça ».